Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. Say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall.
my heart keeps reminding. fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil. Je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs. Beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Okay. I'm about to have a good day, no matter what they say. Sun is shining down on me. Birds are singing praise. I'm about to have a good day, in every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Baby in my arms, walking through the neighborhood, living in the present, not what I shoulda or coulda. I remember back when I was low as a rug. Now I'm standing up, look at what my father does. Turning all things new, gray skies blue. Hear the church saying, won't he do it? I know he's got my back. That's why I'm singing that. I'm about to have a good day, no matter what they say. Sun is shining down on me. Birds are singing praise. I'm about to have a good day, every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Yeah, it's a good day, no, it's great. Everything I prayed for didn't come in late. I got all I need and I didn't have to wait. Ask me if you love me, you didn't hesitate. Turning all things new, gray skies blue. Hear the church saying, won't he do it? I know he's got. That's why I'm singing that. I'm about to have a good day, no matter what they say. Sun is shining down on me. Birds are singing praise. I'm about to have a good day, in every single way. God who made the universe knows me by my name, so it's a good day.
Train de vie.
C'est Christian Gagneux qui va vous apporter le message spirituel que vous allez entendre maintenant.
Et je voudrais avec vous partager quelques idées qui me sont venues par rapport à Marc lui-même, mais surtout par rapport au message que Jésus voulait transmettre. Marc n'était pas lui-même un apôtre, il a écrit son évangile sous la dictée de Pierre. Il était très jeune lorsque Jésus agissait, et on voit combien au travers des écrits de Marc, son évangile est différent que les trois autres évangiles. Marc a écrit donc sous la dictée de Pierre. La particularité de cet évangile de Marc est d'attirer l'attention davantage sur ce que Jésus a fait que sur ce qu'il a dit. Marc va très très vite dans son évangile, il relate beaucoup de péripéties, beaucoup de miracles. Marc rapporte 18 miracles et seulement 4 paraboles. En même temps, Marc ne manque pas de présenter aussi Jésus comme un enseignant. À 39 reprises, il lui applique le terme d'enseignant ou enseigné. Jésus enseignait. Les textes que j'ai choisis dans l'évangile de Marc vont nous éclairer sur le raisonnement de Jésus. Jésus allait mettre un accent très fort sur le pur et l'impur. Aujourd'hui, quand on discute avec des juifs, très vite dans la discussion, vous allez voir cette notion et entendre parler de cette notion de pur et d'impur. Lorsqu'on parle avec des juifs religieux, très vite, ils vont vous expliquer qu'ils ne peuvent pas avoir une relation très profonde avec vous parce que, n'étant pas juif, vous êtes considéré comme impur. Ce symbole d'impureté est très ancré dans la personnalité et dans le caractère juif. Ce n'est pas du tout une critique que je fais là, et vous allez voir que Jésus a mis beaucoup d'efforts pour faire comprendre cela à ses disciples, et vous verrez que ses disciples eux-mêmes étaient terriblement imprégnés de cette notion d'impureté quant à l'étranger. En fait, il n'y avait que les Juifs qui pouvaient posséder et recevoir le message de Dieu et recevoir le salut de Dieu. Nous allons donc développer cet aspect aujourd'hui de ce que Jésus voulait briser, tailler cette haie de houx impénétrable qui séparait les juifs des non-juifs. Et combien de temps que Jésus a mis pour que ce message entre dans l'esprit et dans le cœur des disciples. Et nous allons voir ensemble la manière extraordinaire que Jésus va utiliser. Jésus veut conduire ses disciples vers les païens. Il veut que les juifs et les disciples en particulier découvrent que le message d'amour de Dieu est pour tous les hommes. Et cela est valable aujourd'hui pour nous. Nous aussi, à force de nous habituer tranquillement dans nos habitudes chrétiennes, on risque de tomber dans le même travers que les disciples en considérant l'extérieur comme impur. Jésus veut amener ses disciples à faire abstraction de cette notion de pur et d'impur si chère aux juifs, et qui leur interdisent tout contact avec des non-juifs. Et pour faire entendre ce message révolutionnaire, Marc, dans son évangile, va nous relater 3 traversées du lac de Tibériade. À 3 reprises, Marc va nous raconter ces traversées. Et vous allez voir avec moi qu'il y a des choses très intéressantes à découvrir à ces moments-là. Ces 3 traversées permettent de passer du côté juif vers le côté non-juif. Le lac est aussi appelé mer de Galilée et il est une frontière naturelle qui sépare les deux contrées, juives et non-juives. Mais plus que cela, dans la pensée et la symbolique juive, le fond du lac, le fond de la mer de Galilée a une signification particulière que j'ai découvert cette année en Israël. Et je bénis le Seigneur pour cela. Voilà cette signification particulière qu'a la mer. Les abîmes représente le siège du mal, les esprits mauvais s'y retrouvaient après avoir tourmenté les hommes. Bien sûr, c'est une superstition dans la vie juive, plus qu'une vérité spirituelle. Mais je me suis penché sur ça en rentrant et j'ai regardé ce que dit le dictionnaire biblique. Alors voici ce que dit le dictionnaire biblique. Abîme désigne un trou profond, un puits ou une citerne ou le fond des mers. Ils étaient utilisés comme lieu de sépulture ou dépôt d'ordures. Et c'est pas innocent qu'on utilise l'abîme comme dépôt d'ordures. Abîme signifie étymologiquement sans fond. Le mot est venu à désigner le séjour des morts. Romains chapitre 10 verset 7. une distance infranchissable qui sépare les bons et les mauvais. Luc, chapitre 16, verset 26, et plus généralement, la demeure des démons. Luc, chapitre 8, verset 31. Également, on trouve cela dans l'Apocalypse, chapitre 9, et verset 11, chapitre 11, verset 7, etc., etc. Ainsi, de façon imagée, traverser la mer, c'est aller du monde, bien sûr pur, vers le monde impur, en passant au-dessus, par-dessus, un monde spirituel qui cache le mal et les démons. Ça, c'est pour situer le contexte et la croyance, donc, à l'époque de Jésus. Ce qui est étonnant dans l'évangile de Marc, concernant les traversées, c'est qu'il ne parle jamais des retours. On parle toujours des traversées, mais jamais des retours. Il raconte le départ de la rive pure vers la rive impure. Toute l'importance porte sur le fait d'aller vers l'étranger. Et nous allons voir que chaque trajet sera marqué par des difficultés particulières. Mais avant cet événement, regardons ce qui s'est passé. On a entendu tout à l'heure que Marc mettait l'accent sur le fait que Jésus guérissait les malades et il y a tout un enchaînement dans ces récits. Jésus guérit des malades, il chasse des démons, ce qui fait dire aux religieux que Jésus était lui-même le chef des démons. Vous connaissez cela. À un moment, Jésus est interpellé et parce qu'on voit la puissance qui est en lui, les religieux, les chefs religieux vont lui dire mais c'est le chef des démons. On le prend pour un démon alors qu'il ne fait qu'une chose, c'est de faire du bien et de guérir les gens. Le fossé d'incompréhension entre Jésus et les religieux devient de plus en plus grand. Ces religieux vont surveiller tous les faits et gestes de Jésus dans le seul but de trouver une faille pour l'accuser. L'accuser de ne pas respecter la loi. Et c'est dans ce climat délétère que Jésus va quitter pour la première fois le territoire juif. Première traversée. Un soir, Jésus donna un ordre à ses disciples. Il va leur dire « Passons sur l'autre rive. » De l'autre côté, c'est une terre infidèle, impure. C'est le territoire des Gadaréniens. Très vite, on va se rendre compte que la traversée est difficile, les éléments sont déchaînés. On dirait que quelqu'un ne veut pas que Jésus aille de l'autre côté pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile. La tempête fait rage. Marc, chapitre 4, verset 37. Il est écrit là, « Survint une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Lui dormait à la poupe, sur le coussin, et ils le réveillèrent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Réveillé, il rabroie le vent et dit à la mer, « Silence !» Tais-toi, le vent tomba et un grand calme se fit. Arrivé de l'autre côté, les mauvais esprits sont étrangement au rendez-vous. On va le voir ensemble au chapitre 5. On voit la puissance et l'autorité de Jésus qui commande au vent et aux éléments de s'arrêter. C'est comme la démonstration que ce que vivaient les disciples là était tout simplement une attaque spirituelle. Et Jésus commande et le vent cesse. Marc 5 maintenant. Verset 2. Sitôt qu'il fut descendu du bateau, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le maîtriser. Cet homme-là vit Jésus de loin. Il accourut et se prosterna devant lui et cria, « Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demandait, « Quel est ton nom ?»« Mon nom, lui répondit-il, c'est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et verset 10, il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un vaste troupeau de cochons en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces cochons, que nous entrions en eux !» Il leur permit, les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les cochons, et le troupeau se précipita dans la mer, du haut de l'escarpement. Il y en avait environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer. Endroit présumé dans la spiritualité juive où se trouve le siège des démons. C'est une victoire éclatante pour Jésus. Mais ce qui vient de passer effraie énormément les gens qui viennent de vivre cela. Ce qui est surprenant aussi, c'est que cet homme, c'est la première personne que Jésus rencontre de l'autre côté. Et c'est quoi cet homme ? C'est un possédé par des démons. Jésus est face à l'impureté même. Mais cette victoire fait peur. Verset 14, nous lisons « Ce qui les faisait paître, s'enfuir et répandir la nouvelle dans la ville et dans les hameaux, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. » Ils arrivèrent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu, avec toute sa raison. Et nous lisons là, au lieu d'être joyeux, ils eurent peur. Ces personnes vont demander à Jésus de retourner d'où il vient. Remarquez aussi que durant cet événement, Marc ne nous parle pas des disciples. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. On ne sait même pas s'ils sont sortis de la barque pour pénétrer sur le territoire des Gadaréniens. On n'en sait rien, ce n'est pas précisé. Et nous retrouvons de nouveau Jésus en Galilée, du bon côté de la mer. Et là, il enseigne la foule. Jésus est ému devant cette foule, qui semble être sans berger. Il va probablement leur parler pendant des heures, puisque les disciples lui font remarquer qu'il se fait tard et que ces gens ont faim et qu'il n'y a rien à manger dans les alentours. Les disciples sont pleins de sollicitude à l'égard de cette foule et Jésus va les prendre à leurs propres sentiments. C'est les disciples qui disent à Jésus, on ne peut pas renvoyer ces gens, ou alors on les renvoie tout de suite, avant qu'il fasse nuit, ou sinon il faut qu'on trouve une solution pour leur donner à manger. Ils sont pleins de sollicitude envers cette foule. Et Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Finalement, on présente à Jésus 5 pains, 2 poissons pour nourrir toute la foule. Le miracle a lieu. La foule est nourrie et la Bible nous dit aussi qu'il y a même pas mal de restes. La Bible nous dit qu'il restait à cette première multiplication des pains 12 paniers après avoir nourri 5000 personnes. Et puis, aussitôt après, Jésus ordonne à ses disciples de nouveau de traverser le lac et de le précéder à Bethsaïda pendant qu'il allait, lui, se reposer un moment. Pendant ce temps, il se retire et il va prier, nous dit la Bible. Bethsaïda se trouve à nouveau en terre étrangère, en terre impure. Nouvelle traversée qui commence. Nous lisons dans Marc, chapitre 6, verset 48. Voyant qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire, vers la 4e veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer. Et il allait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, il parla avec eux, il leur dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Puis il monta avec eux dans le bateau et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains et ils étaient encore obtus. Les disciples, ici, sont en train de ramer comme des forcenés pour arriver sur l'autre rive, et il faut encore une fois de plus que Jésus intervienne. Et cette fois-ci, il va intervenir comment ? Il va venir marcher sur l'eau. Il n'est pas avec eux dans la barque. Il vient de la montagne où il avait aperçu la scène. Il avait vu que les disciples n'avançaient pas, que le vent était contraire, et que ça faisait des heures déjà qu'ils bataillaient avec les flots. Il vint les secourir en marchant sur l'eau, et c'est un miracle étonnant et chargé de sens. Pourquoi ? Parce que le fond des mers est toujours le repère des démons et Jésus marche sur l'eau. En quelque sorte, il prend autorité. Il marche sur les démons, il triomphe des démons en marchant sur eux. C'est une image. Il marche sur l'ennemi qui a été vaincu. Mais il y a autre chose dans ce texte. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis le verset 51 et 52, il est écrit là, « Puis Jésus monta avec eux dans le bateau, et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Ils étaient encore obtus. » Franchement, je dis, mais Seigneur, les gars, ils te voient marcher sur l'eau. Qu'ils soient stupéfaits de te voir marcher sur l'eau, je le comprends. Mais qu'ils soient stupéfaits parce qu'ils n'ont rien compris à l'affaire des pains et à la multiplication des pains, ça je ne le comprends pas dans cet événement précis. Ils sont tous stupéfaits, non pas parce que Jésus vient vers eux en marchant, mais parce qu'ils n'avaient rien compris à l'affaire du pain. Pour couronner le tout, ils ne débarquèrent pas à Bethsaïda, mais à Génézareth. Encore un échec. Ils ne sont jamais arrivés à Bethsaïda. La Bible ne nous le dit pas, mais la Bible nous dit que la barque arriva de nouveau à Génézareth, en fait quasiment au point de départ. Génézareth se trouve du côté juif, tandis que Bethsaïda se trouve du côté non-juif. Donc, ce que nous montre Marc, c'est que la barque n'est jamais arrivée à Bethsaïda, mais qu'elle est quasiment revenue de là où elle est partie. On revient donc à la case départ et on recommence. Les deux traversées précédentes se sont soldées par un échec. Donc Jésus, il va recommencer son enseignement. Jésus va continuer à lutter lui-même contre la notion sectaire qui classe les gens en catégorie pure et en catégorie impure. Et ce n'est pas une tâche facile pour lui. C'est très dur. Les religieux recommencent à lui chercher querelle sur des questions relatives à la loi et à la tradition. Ils prennent pour prétexte que les disciples de Jésus mangent sans s'être lavé les mains. Les religieux s'énervent. Jésus va riposter en tenant un discours sur ce qui est pur et sur ce qui ne l'est pas. Les religieux vont pouvoir comprendre ce que Jésus voit dans la pureté et dans l'impureté, ce qui est totalement différent que ce que voit dans la pureté et dans l'impureté. Marc chapitre 7, versets 14 à 23. Nous lisons. Puis Jésus appela de nouveau la foule et dit : Écoutez-moi, vous tous, et comprenez ceci. Rien de ce qui entre du dehors en l'homme ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Jésus continue. Verset 21, il dit : Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que viennent les mauvaises pensées qui poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, tuer, commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, à tromper, vivre dans le désordre, à être jaloux, dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur. Jésus laisse les prêtres là, perplexes, et continue son chemin, entraînant ses disciples en terre étrangère. Mais cette fois-ci, il va y aller à pied. Et Jésus revient vers le lac à pied, mais dans la ville de Sidon, donc en territoire impur de nouveau. Et comme à son habitude, il commence à enseigner les foules. Il guérit les malades. Depuis 3 jours, les gens l'écoutent et le suivent sans manger. Le lieu où il se trouve est désert. Et maintenant, nous lisons Marc 8, verset 2. Et Jésus parle. « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Au moment de la première multiplication des pains, ce sont les disciples qui ont dit à Jésus, « Jésus, écoute, vois ces gens, ils ont faim, il faudrait s'occuper d'eux. » Cette fois-ci, les disciples ne disent rien. C'est Jésus qui a compassion de ces gens après 3 jours, nous dit la Bible. 3 jours où les gens l'écoutaient, où il guérissait des malades et il agissait avec force et puissance. Ce sont les disciples qui se sont inquiétés de la situation des besoins de la foule du côté de Génézareth, donc du côté pur. Mais là, ils sont en territoire impur. Et ici, dans la même situation, situation identique, c'est Jésus qui fait remarquer aux disciples que la foule a faim. Ce détail nous permet de retenir un enseignement important. Du côté juif comme du côté païen, il y a une foule qui a les mêmes besoins, il y a les mêmes malades, il y a des gens qui ont les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes luttes, les mêmes combats. Et c'est valable pour nous aujourd'hui qui sommes chrétiens. Bien souvent, on pense que parce qu'on est chrétien, on n'a pas à avoir de problème, on n'a jamais de problème. C'est faux. Qu'on soit chrétien ou pas, on a les mêmes problèmes. Jésus le sait et il est en train de nous en faire la démonstration ici. Qu'on soit considéré comme pur ou comme impur, les luttes, les difficultés font partie de notre lot quotidien. Mais notre assurance, c'est que Jésus est avec nous. Il y a une foule qui a les mêmes besoins et qui a faim. Jésus donne les mêmes enseignements aux deux foules et guérit les malades de la même manière. Entre les deux lieux où s'est passé cet événement, il y a une frontière qui, jusqu'à présent, paraissait infranchissable. Si pour Jésus, ces foules se ressemblaient parfaitement, pour les disciples, elles sont très différentes les unes des autres, puisqu'il y a une foule juive et une foule non-juive. Donc on voit bien que le travail de Jésus était énorme à faire passer dans le cœur des disciples ce message. Marc nous fait remarquer que les disciples n'ont pas la même sollicitude, selon qu'ils se trouvent d'un côté ou de l'autre de la frontière. Pour les disciples comme pour les prêtres de Jérusalem, il existe toujours une différence entre pur et impur, entre juifs et païens. Et ces différences existent toujours. Je vous le dis, quand vous parlez avec des juifs, qu'ils soient religieux ou non, très très vite, la notion de pur et d'impur revient. Jésus a vu le besoin spirituel et matériel de ces deux foules. Et cette leçon est très importante. Lui ne fait aucune distinction. Et nous n'avons pas le droit de faire de distinction. Tous les hommes, sans exception, ont droit au même message. Au message de l'Évangile, à la bonne nouvelle de l'Évangile. En multipliant le pain de part et d'autre de la frontière, Jésus renverse ses clivages. Il fait tomber ses barrières. Il marche sur ses différences comme il marche sur le lac qui sépare les deux nations. Après cette deuxième multiplication des pains, Jésus et ses disciples retournent en territoire juif. Et cette fois, les religieux vont demander à Jésus des preuves sur le fait qu'il est vraiment le Fils de Dieu, dans Marc 8, chapitre 12. Tout de suite après ces récits, ils demandent des preuves qu'il est le Fils de Dieu. Et ça va énerver Jésus, parce que la Bible me dit qu'il soupire profondément. Et il ne leur donnera d'ailleurs aucun signe. Il les laissera là avec leurs questions. Et tout de suite après, et de façon très surprenante, la troupe remonte dans le bateau pour une troisième et dernière traversée. D'ailleurs, Jésus, juste avant son arrivée dans cette ville impure, il rencontre une femme syro-phénicienne. Et curieusement encore, le problème qu'avait cette femme, c'était que sa fille était possédée de démons. Chaque fois que Jésus arrive en terre impure, le premier miracle, c'est de chasser des démons. Donc, dernière traversée qui va de terre juive à la terre étrangère. Et c'est encore dans ce sens qu'il va se passer quelque chose. Cette fois-ci, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de vent contraire, mais une étrange discussion qui va bouleverser les disciples, qui va nous permettre la compréhension du message de Jésus dans toute sa dimension. Marc, chapitre 8, verset 4. Il est écrit là, « Les disciples avaient oublié de prendre des pains, et ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, l'ayant connu, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ?»« 12 », lui répondirent-ils. « Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ?»« 7 », répondirent-ils. Et il leur dit, « Ne comprenez-vous pas encore ? Moi, je me suis mis dans la barque avec les disciples. » Et j'ai écouté la question de Jésus. Et j'imagine les disciples complètement étonnés par ces questions. Et surtout, ce qui paraît clair, c'est que les disciples ne comprennent pas. Moi, je suis comme les disciples. Je ne comprenais pas ce que Jésus voulait leur dire là. Alors on va essayer d'y voir plus clair. Du côté juif, nous avons une multiplication des pains et il reste 12 paniers. 12 corbeilles, nous dit la parole de Dieu. 12 comme les 12 tribus d'Israël. Et comme les 12 disciples, souvenez-vous de quel côté s'est passée la première multiplication des pains ? Du côté juif, du côté pur. Seconde multiplication, il reste là 7 corbeilles. 7 est le chiffre parfait qui parle de la totalité du monde créé par Dieu. Et nous découvrons là toute la plénitude du message que Dieu était en train de donner là à ses disciples. Cette fois, dans le bateau qui mène de la rive pure vers la rive impure, il n'y a pas de pain. Ils sont sans pain dans le bateau. Mais il y a Jésus. Jésus qui multiplie le pain. Jésus qui devient même pain pour nous. Ceci est mon corps rompu pour vous. Nous avons partagé tout à l'heure la Sainte Cène qui nous rappelle que Jésus est le pain de vie, que Jésus est celui qui est capable de bouleverser notre vie et de l'état d'impur que nous sommes, même si parfois nous nous considérons comme purs par rapport à certaines lois que nous nous sommes fabriquées nous-mêmes. Dieu nous rappelle que nous sommes impurs et sans le pain de vie, nous sommes et nous resterons impurs. Je suis le pain de vie. Le pain devient tout d'un coup le symbole de Jésus-Christ qui se donne pour tous. Pour les 12 tribus d'Israël, c'est vrai, mais aussi pour le monde entier. Pour Jésus, il ne peut pas y avoir de différence de traitement d'un côté comme de l'autre. Dieu est fondamentalement amoureux de chaque être humain. Il a mis une attention particulière en nous créant. Il a mis une attention particulière en me créant et en faisant ce que je suis et ce que je suis devenu. Et je me réjouis de voir ce que Dieu va encore faire dans ma vie. Même si c'est pas toujours facile, même s'il y a des chemins difficiles. Parce que je crois que le Saint-Esprit tout simplement veut nous guider dans une nouvelle dimension. Un nouvel éclairage, une nouvelle compréhension des choses. Il veut nous préparer à recevoir tous ceux que Dieu appellera, pas ceux que nous considérons dignes de venir, nous, non, mais ceux que lui considérera comme dignes, pas ceux que nous considérerons comme dignes. En conclusion, je dirais simplement que Jésus voulait absolument faire passer ce message révolutionnaire. Le pain est pour tous, pour toutes les personnes. Quelle sorte de pain es-tu en train de manger? Du pain rassis, moisi? Non, Jésus veut nous donner du pain frais, renouvelé tous les jours. Son pain à lui, rempli de l'esprit. Le mot d'ordre de Jésus est le suivant. Passons sur l'autre rive. Marchons sur nos clivages, sur nos idées, sur notre manière de voir les autres. Passons sur l'autre rive. Et Jésus nous dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est à nous de le faire. C'est ce qu'il a dit aux disciples. C'est notre travail. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus va ouvrir les cœurs. Mais c'est à nous de leur donner à manger. C'est à nous de faire l'effort d'aller les trouver, de leur apporter la bonne nouvelle. Et ne regardons pas au vent contraire qui nous empêche de voir en l'autre un frère potentiel avec qui nous pourrions partager le pain. Le vent contraire vient de l'ennemi de nos âmes. Je crois que j'ai enfin compris ce que Jésus voulait nous dire dans ces passages parfois perplexes. Et je crois que les disciples ont compris, en tout cas en partie. Pourquoi je dis en partie? Parce que quand je continue à lire ma Bible, je me rends compte que celui qui est devenu l'apôtre des païens, c'était qui? Paul. Et Paul, c'était qui? Paul, c'était un demi-juif. C'était pas un juif à part entière comme tous les autres disciples. Une partie de sa famille était romaine, l'autre partie était juive. Et c'est lui qui est devenu l'apôtre des païens. Et les autres disciples ont continué à s'occuper du peuple juif. Voyez la difficulté qu'avait Jésus à faire passer son message. Voyez combien le cœur de l'homme peut être obtus et fermé et être resté attaché, ancré à ses préjugés, à ses pensées. Et Jésus veut faire tomber ces barrières. Et je crois qu'il veut nous faire comprendre cela pour notre avenir très proche. Je crois vraiment que Jésus va envoyer des âmes en masse. Et à nous d'être capables de commencer à les nourrir avec le bon pain qu'est Jésus-Christ. C'est le but du Seigneur. Oui, je sais, on dit cela depuis un certain temps déjà, mais je suis persuadé que viennent des temps très très proches où nous allons voir des centaines d'âmes venir. Dieu n'a pas besoin de nous pour toucher les cœurs, mais Dieu a besoin de nous pour leur donner le pain, pour les faire grandir, pour les amener à maturité. La nourriture de Dieu, la parole de Dieu, la personne de Jésus-Christ, la personne du Saint-Esprit, l'amour de Dieu le Père. Voilà ce que le monde a besoin aujourd'hui, un monde qui vit dans un désarroi terrible. Alors, je voudrais simplement qu'on prie ensemble pour que nous puissions entrer dans cette dimension que Jésus veut nous donner et considérer ce qui est impur aujourd'hui à nos cœurs, le considérer comme pur parce que Dieu voit déjà ce qu'il va faire dans les cœurs. Amen.
Merci pour votre écoute et si vous désirez commander le message que vous venez d'entendre, contactez votre radio locale.
Chaque jour, un mot d'encouragement avec Bob et Débigas.
Celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement. Philippiens 1, verset 6. Dieu me fait rêver plus grand. Bonjour à tous. Tant de gens ont en eux un grand rêve qu'ils ne poursuivent jamais par crainte de l'échec. Ils n'imaginent pas qu'ils puissent se réaliser. Alors, ils y renoncent. Voici leur défi : ne pas s'inquiéter du résultat. Ils n'en sont pas responsables. Paul dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Il leur suffit simplement d'agir en conséquence. Pas la peine que ce soit quelque chose de grand. En fait, ce sera sans doute quelque chose de petit. Tout ce qui est grand commence petit. Mais s'ils accomplissent de petites choses comme s'il s'agissait de grandes, Dieu les bénira et les utilisera. A.W. Tozer a dit « Une mauvaise opinion de Dieu est la cause de 100 moindres maux. Une haute vision de Dieu est la solution à 10 000 problèmes du présent. » Notez comment Paul prie pour les croyants d'Éphèse. « Que Jésus illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'action souveraine de sa force. » Éphésiens 1, versets 18 et 19. Personne ne peut imaginer ce que Dieu est capable de faire. Ça veut dire que nul n'imagine ce qu'il peut faire s'il laisse Dieu contrôler sa vie. Sa puissance provoque une réaction en chaîne et cette énergie permet d'accomplir les desseins qu'il réserve à chacun.
Recevez la brochure Parole du jour chez vous en vous abonnant gratuitement sur paroledujour.com ou sur l'application Parole du jour.
Phare FM, l'émotion partagée.
Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un plus un fond de. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Oh. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. Oh. I love, I love, I love, I love, I love you. Je vais casser toutes mes montres, peu importe que ça va me coûter. Oh. Quand j'aime, le temps doit pas s'écouler. Oh. Et depuis que toi c'est moi, j'ai tout oublié du passé. Oh ma chérie, dis-moi où tu t'étais caché. Oh. Oh pourquoi j'ai mal, mal, pourquoi je suis blessé. Oh. J'ai demandé à Dieu de nous séparer, mais il ne veut pas m'exaucer. Oh. Oh c'est lui qui sait. Et son plan est déjà calé. Oh. Donc si c'est pour toi, c'est avec la joie que je vais pleurer. Oh. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un puissant fondeur. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Oh. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. Laisse-moi guérir tous tes bobos, ma chérie. Je ne veux plus souffrir, souffrance même cherche à te fuir. Écoute ma poitrine, mon cœur a des choses à te dire. Allez, donne tes larmes, redonne tes cris. Tout ce qu'ils t'ont fait, on va oublier. Prends-moi cadeau, fais-moi oublier mon gourmand. Allez, prends-moi tout, garde-le pour toi. Et si le ciel me rappelle, c'est devant toi que je veux fermer les yeux. Oh, oh baby, I love, I love, I love, I love.
Talking with the big is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to get it. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids.
Avec Eric et Rachel Dufour, en partenariat avec The Watchers.
Mode d'emploi en 10 leçons, c'est notre thématique aujourd'hui.
En général, il n'y a pas énormément de besoins. On en a entre, selon les individus, entre 4 et 6. Et en fait, c'est assez raisonnable pour se sentir vraiment en vie. Mmh. Ce n'est pas une longue liste de 15 ou 20 articles qu'il va falloir apprendre par cœur, non. Par contre, ce qu'on vous encourage vraiment, c'est donc, une fois que vous avez compris l'importance de ce concept, c'est de travailler à construire votre liste. Et vous vous posez cette question, Seigneur, montre-moi mes besoins essentiels. Et puis, quelles sont les actions concrètes qui vont m'aider à remplir le besoin? Et vous pouvez vous poser trois questions qui vous aident à trouver les actions. C'est quand, comment et combien de fois? Et par exemple, quand est-ce que je dois la prendre dans mes bras? Combien de fois? Est-ce que c'est une fois par an ou une fois par jour ou cinq fois par jour? Et puis, comment? Est-ce que c'est moi qui initie, elle qui relâche? Et en fait, en répondant à ces questions, vous allez vraiment arriver à avoir une précision. Et puis, quand vous avez ces listes prêtes, eh bien, vous vous organisez un moment sympa tous les deux. Et puis, chacun lit sa liste à l'autre. Et l'autre devient l'étudiant en langue étrangère. Et donc, l'autre a le droit de poser les questions. Mais là, je comprends pas bien. Est-ce que tu peux m'expliquer combien de fois et vous pouvez même poser ces trois questions vous-même si ça vous aide à bien comprendre. Puis, symboliquement, quand vous avez terminé ce travail tous les deux, échangez ces listes. Et ça va être le premier jour de votre vie où vous ne vivez plus pour que vos besoins soient remplis, mais uniquement avec la seule intention de remplir les besoins de l'autre, comme un acte d'amour sacrificiel, et c'est le plus bel acte d'amour qu'on puisse avoir. Indépendamment de ce que mon conjoint va être bon ou pas à remplir mes besoins, moi, je m'engage à remplir les siens.
C'est un super geste, en fait. On donne les clés de notre cœur à l'autre. On n'impose pas. Tu dis pas, bon, maintenant, tu vas faire tout ça.
Pas du tout.
C'est juste, écoute, je te donne les clés de mon cœur. Tu peux vraiment me bénir à tous les niveaux parce que tu connais le plus secret de moi.
Et puis, ayez des petits contrôles qualité, surtout au démarrage, peut-être après un mois, puis après trois mois. Venez voir le professeur. C'est-à-dire, chaque étudiant vient voir son professeur. Alors, comment je me débrouille? Et puis, le professeur va régler. Là, écoute, je t'avais dit 5 fois, 10, ce serait mieux. Ou bien là, je t'avais dit 20, allez, 15, on va dire. Et en fait, on règle les actions. Puis après, ce sera une fois tous les 6 mois, puis une fois par an. Ou alors, à chaque saison de vie qui change, ou à chaque moment important, on peut avoir besoin d'un petit réglage moteur, en quelque sorte, pour garder la liste active.
C'est vrai qu'on a besoin d'entendre. Tu vois, j'ai fait des progrès quand même.
Mais oui, exactement. Ah, ça, c'est un besoin. Compliment.